Bonjour, vous êtes en compagnie des élèves de 3e du collège Marcel Pagnol de Tony Bouton. Dans notre revue de presse d'aujourd'hui, nous verrons les rubriques internationales, nationales, locales et sans oublier le sport. Nous commençons avec la résistance ukrainienne.
La guerre Russie-Ukraine reste au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. Le journaliste Thomas Distria, un envoyé spécial du journal Le Monde, nous parle aujourd'hui de Bakhmout, une ville du Donbass qui est dans une situation délicate. En effet, à Bakhmout, la résistance de l'armée ukrainienne est désespérée. Cette ville est prise depuis plusieurs mois par les Russes. La dernière voie qui menait au centre de Bakhmout est bombardée. Pour pouvoir continuer d'entrer et de sortir de cette cité du Donbass, il reste quand même un tout dernier corridor de quelques kilomètres de large. Dans son article, le reporter a interviewé des combattants ukrainiens. Certains n'ont pas perdu leur détermination, pendant que d'autres n'ont plus d'espoir. Par exemple, l'un des soldats du nom de Batia s'inquiète que Bakhmout risque probablement de tomber. Un autre ajoute « Nous avons besoin d'un miracle ici ».
Un peu plus au sud, et plus précisément en Tunisie, dans Le Monde, un article écrit par un essayiste nommé Atem Nafti dénonce le régime de répression du président tunisien Kais Saied et explique que le président tunisien utilise les forces de l'ordre pour arrêter des opposants durant une prise de parole. Kais Saied a prétendu avoir déjoué un complot contre la sûreté de l'État et des tentatives d'assassinat sur sa personne. Parmi les personnes arrêtées, Nourdine Boutar a fait le plus parler. Directeur général de Mosaïque FM, la station de radio la plus écoutée de Tunisie, son émission Midi Show a un positionnement critique à l'égard du tournant autoritaire du régime. Kais Saied affaiblit, voire élimine les contre-pouvoirs, après avoir dissous le Parlement ainsi que l'instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, il s'est accordé le pouvoir de gouverner par des décrets-lois. Non susceptible de recours, une dérive autoritaire fermement dénoncée par Atem Nafti.
Prenons un peu de hauteur avec la rubrique science du journal Le Figaro, où Tristan Veil revient sur les résultats de l'expérience menée par la NASA le 22 septembre 2022 après leur publication dans la revue Nature. Il nous parle de DART, ou fléchette en anglais, qui a réussi à détourner l'astéroïde Dimorphos de sa trajectoire. Les images ont été retransmises par un mini-satellite italien largué par DART 2 semaines avant l'impact.
Restons aux États-Unis dans les technologies, le journal L'Opinion, dans un article écrit par Yuka Hayashi et Asafich, intitulé « Les États-Unis veulent un nouvel élan aux semi-conducteurs ». Le département américain du commerce a ouvert ce mardi la procédure de dépôt de dossier de demande de subvention au titre du CHIPS Act. Des conditions pour que les milliards de dollars versés pour les contribuables soient utilisés de façon judicieuse. Les financements devront également s'inscrire dans une démarche de sécurité nationale destinée à contrer les progrès technologiques de la Chine. Le CHIPS Act, voté par le Congrès américain, signé par Joe Biden l'an dernier, prévoit des aides d'un montant de 39 milliards de dollars pour les entreprises qui investissent dans la production locale de puces électroniques.
Culture internationale maintenant. Dans l'éditorial du Figaro, Étienne de Montetti s'alarme sur les auteurs aujourd'hui disparus de la littérature anglo-saxonne qui sont victimes de censure, pour les uns, ou d'une action de bienséance visant à préserver les esprits fragiles pour les autres. En effet, les sensitivity readers, chargés de traquer des termes pouvant être offensants à l'égard des minorités, ont été missionnés par Netflix de relire les œuvres de Roald Dahl. La plateforme de streaming américaine en a obtenu les droits le 22 septembre 2021. Roald Dahl, maître du genre, pratiquait la caricature et l'outrance burlesque pour faire rire. Dans un avertissement adressé à son ami et peintre Francis Bacon, il avait déjà fait comprendre que ses œuvres ne subiraient pas de changement, du moins de son vivant. Après la réécriture de Roald Dahl, Agatha Christie aussi a été censurée, transformant le titre de son livre Le Nègre de Narcisse avec les enfants de la mer. Ian Fleming, Jane Austen, mais aussi Disney sont critiqués. Dans un monde où l'inclusivité et la sensibilité contemporaine est de plus en plus présente, par ces censures, les œuvres peuvent être dissociées de leur contexte socioculturel est une possibilité. Pour les sensitivity readers, la littérature doit aussi être un moyen d'éducation citoyenne. Malheureusement, pour certaines personnes, modifier les textes originaux peuvent aussi les tourner à l'excessif et au ridicule. Le Figaro a donc dédié et décortiqué le sujet en leur consacrant leur éditorial et leur une. «
Dans le journal Aujourd'hui en France du jeudi 2 mars 2023, Élie Julien, journaliste, témoigne des mesures prises après la sécheresse hivernale dans les départements du Var, du Puy-de-Dôme et de l'Ardèche. Ainsi, après les restrictions, plusieurs communes cherchent à réduire le nombre de nouvelles constructions. Par exemple, à Montauroux, dans le Var, le maire Jean-Yves Huet va suspendre les autorisations d'urbanisation pendant 5 ans afin de fournir de l'eau potable aux nouvelles constructions, car la mairie sera incapable de fournir à ces constructions l'eau potable. L'État joue aussi un rôle en Ardèche. Il a imposé au petit bourg de Pranle l'arrêt des constructions pour ne pas augmenter les besoins en eau. Pour conclure, le journaliste cite Fabienne Trollard, directrice de la recherche à l'INRIA. Il va falloir prendre des mesures différentes concernant la gestion de l'eau, notamment en utilisant beaucoup plus les eaux usées.
Ensuite, dans le journal Sud-Ouest, le Salon international de l'agriculture à Paris bat son plein. Sud-Ouest se pose deux questions inquiétantes pour les générations futures. Comment attirer les jeunes et comment lever les freins à l'installation? En effet, c'est bien la question du renouvellement des générations d'agriculteurs qui s'exprime dans cet article. Les chiffres d'installation qui s'estiment à 13 000 donnent le vertige et font trembler les certitudes sur la souveraineté alimentaire. La baisse de ces chiffres s'explique par les départs à la retraite plus nombreux que les installations de jeunes. Valérie Demès, l'envoyée spéciale du journal, a rencontré plusieurs jeunes qui expliquent leurs difficultés d'installation et leurs emprunts très importants à demander aux banques. Elle a aussi rencontré les jeunes décidés depuis longtemps à devenir paysans à tout prix.
Le journal Littoral, lui, nous a parlé d'une audience. Une audience dédiée à l'alcool et aux produits stupéfiants. Même si le nom de Pierre Palmade n'a pas été cité, cet incident a plané sur la cour tout au long de cette audience. Durant celle-ci, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, aurait déclaré une suspension immédiate du permis. Mais pour l'un des spécialistes du droit routier, cette proposition serait totalement démagogique et assurément contre-productive.
En France, toujours, Libération, dont la une est consacrée à TikTok et aux enjeux politiques qui lui sont attribués, nous parle d'une majorité numérique qui est proposée par l'Assemblée nationale pour conditionner l'accès à des applications comme TikTok à l'âge de 15 ans. En effet, dans cet article, Élise Vignacourt nous explique qu'actuellement, il est très facile de s'inscrire en mentant sur son âge. Par ailleurs, une étude de l'Institut YouGov estime que 41% des 8-11 ans seraient déjà actifs sur TikTok, Snapchat et WhatsApp. Cette mesure, qui doit encore être discutée au Sénat, aura la vocation de préserver la santé mentale des plus jeunes et de lutter contre le cyberharcèlement. De plus, elle souligne l'importance de l'éducation et le rôle des parents dans le contrôle numérique de leurs enfants.
La possible généralisation du SNU fait polémique. Cette généralisation fait du service national universel pose débat. C'est ce que nous montrent Aude Borietti et Paul-Henri Wallet dans l'article du Figaro du jeudi 2 mars. Ainsi, le député Bastien Lachoud dit que la généralisation du SNU sert juste à mettre la jeunesse au pas. De leur côté, les partisans du SNU rappellent que les jeunes ayant fait l'expérience de ce dispositif en sortent contents. Cependant, la décision n'est pas encore prise.
Dans le journal Le Parisien, les journalistes Jérémy Famlet, Ronan Folgoas et Fabien Payot enquêtent sur la disparition de Leslie Ourelbeck, 22 ans, et de Kevin Trompa, 20 ans. Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022, Leslie et Kevin ont disparu à Praec, dans les Deux-Sèvres. Plus aucune trace d'eux. Un ami du couple aurait été interpellé le mardi 28 février au matin. Il a été entendu depuis les locaux de la brigade de Niort. Après 3 mois d'investigation discrète, les gendarmes avaient resserré leurs soupçons sur cet homme qui risque une mise en examen et un placement en détention provisoire. Il serait le trait d'union involontaire entre ces deux amoureux.
Dans le journal Le Courrier de l'Ouest, le journaliste Jordan Guérin-Morin nous explique qu'un second individu a été interpellé à La Rochelle et a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour enlèvement et séquestration de Leslie et Kevin. Ce suspect, nommé Tom, l'un des amis de Leslie et Kevin, réside en Charente-Maritime, à Puyraveau, là où a été trouvé des effets personnels de Leslie et Kevin dans une benne à vêtements. Au terme de leur garde à vue, les deux suspects seront présentés au juge et d'instruction du pôle criminel de Poitiers. Pour plus d'informations, lisez le journal Le Courrier de l'Ouest.
Passons à la réforme des retraites. Dans l'hebdo de la Charente-Maritime du jeudi 2 mars, sous la plume d'Amaury Legrand, nous apprenons qu'après 2 semaines sans mobilisation, l'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt le mardi 7 mars. En Charente-Maritime auront lieu 4 manifestations, à Saintes, Rochefort, Royan et La Rochelle. Cette mobilisation aura pour cadre d'aborder le projet de réforme des retraites. Les débats vont s'étaler au Sénat durant 11 jours avec plus d'une centaine d'heures de discussion.
Restons dans le local avec le journal Le Sud-Ouest et Linda Doufi, la journaliste qui revient sur l'accident de Puisseguin. La collision entre un poids lourd et un car avait fait 43 morts le 23 octobre 2015. Le 14 octobre 2021, soit 6 ans plus tard, le juge d'instruction Emmanuel Fantopi avait décidé de rendre un non-lieu. Aujourd'hui, on saura si le dossier va réouvrir. En effet, d'une part, l'accident ne sera pas survenu si le tracteur Iveco avait circulé à moins de 72 km/h, et d'autre part, Mercedes est soupçonnée de malconformité.
Encombrement, manque de personnel, de lits et de moyens. Le service des urgences de Rochefort s'est vu fermer ses portes le 23 février 2022, pendant quelques jours. C'est ce qu'a voulu montrer Olivier Roux, photographe et vidéaste rochelais, avec sa web-série 15 minutes aux urgences. Le projet remonte au printemps 2022. Pour Olivier Roux, la plateforme YouTube est la meilleure car ça lui a permis de s'exprimer sans être dépendant d'un média et permet d'offrir une belle visibilité. Dans l'épisode 1, on suit le quotidien de Gérald, infirmier depuis plusieurs dizaines d'années au sein du service, puis le deuxième épisode est centré sur Wade, jeune médecin urgentiste. Au fil des épisodes, on peut voir différents contextes sociaux. Une immersion qui est plutôt bien vécue par le personnel soignant selon Olivier Roux, quant aux patients, le vidéaste a lui-même fixé des limites. La web-série a été publiée en milieu du mois de janvier 2023. Vous trouverez plus de détails dans le journal L'Hebdo, sous la plume de Amaury Legrand.
Passons à l'actualité sportive avec la mort de Juste Fontaine. Ce décès est rappelé dans plusieurs quotidiens. Aujourd'hui en France, L'Équipe, Le Figaro, Libération, etc. Éric Michel, pour Aujourd'hui en France, nous rappelle que Juste Fontaine était connu pour ce record d'avoir marqué 13 buts en une seule Coupe du Monde qui reste imbattue. C'était en 1958 en Suède. Juste Fontaine est né le 18 août 1933 à Marrakech, au Maroc. Le recordman est mort le 1er mars 2023 à Toulouse. Après 21 sélections en tant qu'attaquant et 30 buts inscrits entre 1953 et 1960, il arrête sa carrière à cause d'une double fracture tibia-péronée, mais continue en tant qu'entraîneur du PSG. En 1974, le PSG monte en première division en battant Valenciennes 4-2. Un énorme hommage a été rendu à cette légende du football dans le journal L'Équipe qui lui consacre 12 pages.
Pour finir cette revue d'actualité, dans le journal L'Équipe de ce jeudi, le journaliste Mélisande Gomez revient sur la défaite de l'Olympique de Marseille contre Annecy et qui voit s'envoler le rêve de l'OM pour la Coupe de France. Le stade Vélodrome était rempli de 64 000 personnes et qui s'est tue d'un seul coup. Le rêve marseillais d'une victoire en Coupe de France s'est éteint dès les quarts de finale et pas grand monde ne l'avait vu venir. Pas assez tranchant devant, ni assez solide derrière, ce qui commence à devenir une habitude inquiétante pour Marseille. Après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain sous le score de 3-0 en Ligue 1 devant ce même public, les Olympiens s'imaginaient bien rebondir contre les Annéciens. Annecy est la première équipe n'évoluant pas en Ligue 1 à éliminer l'OM au Vélodrome en Coupe de France depuis 2005, ce qui fait évidemment la joie de leurs supporters.
Vous venez d'écouter la revue de presse des élèves de 3e A du collège Marcel Pagnol de Tony Bouton. Nous remercions Madame Briand, Madame Bobinet, Monsieur Bonifay et Monsieur Vance pour ce projet. Vous pouvez le réécouter en podcast sur le site du Radio Collège. À bientôt.